Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi titulaire Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Monulfe Bosso. Il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio Trans-Équatoriale. C'est une radio panafricaine. Bonjour Monulfe Bosso.
Bonjour Dimaté.
Maître Nene Bintou Iragi Mudekereza, il est vice-présidente de la société civile du Sud Kivu et le chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Bonjour Maître Nene Bintou Iragi Mudekereza.
Oui, bonjour Maître Dimaté, je salue également.
Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Bonjour professeur Pierre Virgence.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Monulfe Bosso. Il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio Trans-Équatoriale. C'est une radio panafricaine. Maître Nene Bintou Iragi Mudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu. Elle est chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Mama. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Au menu de cette émission, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi lève l'option de participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Sud Kivu, la grève des agents administratifs de l'Assemblée provinciale empêche la tenue de la session inaugurale. Et enfin, le programme alimentaire mondial PAM en sigle a besoin de près de 400 millions de dollars américains pour 1,5 million de personnes les plus vulnérables en RDC pour les 6 prochains mois. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le combat intense qui oppose les FARDC et les rebelles du M23 au Nord Kivu. En effet, un calme précaire était constaté hier vendredi matin sur différents axes de la ligne de front, notamment à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo et Sake dans les Masisi. Cependant, les autorités administratives de Kamuronza dans les territoires de Masisi affirment qu'une nouvelle bombe a été larguée vers 9h par les rebelles et a blessé un enfant à Sake. Elles ajoutent qu'en dépit de cette accalmie, les deux forces se larguent des bombes sporadiquement à partir des positions qu'elles occupent. Le M23 a été repoussé par les forces loyalistes en profondeur des collines surplombant Sake, affirme une autre source. Les villages Chacha, Kirotche, Kituva, sur la route nationale numéro 2, restent toujours sous occupation de l'ennemi. Sur un autre plan, les mouvements de retour timide de quelques déplacés de Sake qui avaient fui vers Goma s'est poursuivi ce même vendredi, même si une certaine méfiance gagne encore les habitants de cette cité. Monulfe Bosso, les combats s'intensifient dans les localités non loin de la ville de Goma. Nous venons de le dire ici. Les rebelles gagnent de l'espace en occupant certaines collines stratégiques. Et les FARDC essayent tant soit peu, n'est-ce pas, de freiner cette avancée des rebelles. Et on a l'impression que la ville de Goma devient de nouveau l'enjeu principal de ces combats, Monulfe Bosso.
Oui, cher ami Guy Maté, vous l'avez si bien dit. si vous voyez toute cette résurgence autour de la ville de Goma, c'est pour dire clairement que les taux se resserrent autour de la ville stratégique de Goma. Et vous savez que si Goma tombait aujourd'hui, je pense bien que même l'option prise par le gouvernement de la République de ne pas négocier avec les M23 et les RDF que le gouvernement a qualifié des terroristes, donc on sera obligé de revoir certaines choses. Donc c'est de la bonne guerre, et ce que nous observons, nous regrettons, parce que à chaque fois on dit bon, il y a un bon comportement de nos militaires sur terrain, mais dans l'entretemps ces terroristes continuent à avancer. Je pense bien que sur ces points-là, l'armée devrait en principe revoir ses stratégies, parce que quelquefois on largue des bombes et on détruit même la position avancée de l'ennemi, mais il n'y a pas une suite à ça. Il faudrait qu'il y ait aussi des forces sur terrain qui avancent pour occuper effectivement là où on a largué des bombes et puis on a fait fuir l'ennemi. Mais laisser ça pendant des jours, vous voyez que même les Sukhoi qu'on utilise sur terrain ne sont pas en activité chaque jour, et pourtant nous sommes en guerre. Et qui dit guerre, donc on ne doit pas, si vous utilisez les drones, vous utilisez les avions, il faut continuer pour que ces gens-là battent vraiment en retraite. Parce que eux, quand nous sommes attaqués et que nous répliquons, c'est vrai, ils fouillent. Mais quand il n'y a pas des gens qui viennent, des militaires qui viennent occuper les places, où vous faites les sites laissés par ces gens, en ce moment-là, ils s'organisent et puis ils reprennent, ils peuvent changer des techniques justement pour nous surprendre un peu. Voilà, c'est ça ce que je peux dire. Donc, en bref, l'étau se resserre autour de la ville de Goma et c'est très dangereux.
Merci, Monulf. Maître Nene Bintou Iragim de Kereza, pendant que la ville de Goma est menacée, on constate que les affrontements sont en train, n'est-ce pas, de s'étendre à la province du Sud Kivu avec les territoires de Calais et qui est affecté, n'est-ce pas, par les déplacements des populations civiles. Comment vous comprenez cette stratégie qui consiste à étendre les conflits au Sud Kivu, Maître Nene Bintou Iragim de Kereza? Allô, Madame Néné, est-ce que vous êtes là? Elle n'est plus là. Et professeur Pierre Vigence, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comment vous comprenez cette stratégie alors que on sent que c'est la ville de Goma qui est menacée? Entre-temps, les conflits en train de s'étendre sur le Sud Kivu. Est-ce que concentrer les combats autour de la ville de Goma n'est pas une sorte, n'est-ce pas, de stratégie qui consisterait à attirer l'attention sur Goma, alors que c'est une autre ville qui est visée?
Oui, c'est ça. La question, c'est de savoir si c'est un détournement de l'opinion, hein, de l'attention. Comme ça peut être effectivement un leurre, en quelque sorte, pour que l'armée se retourne vers un autre objectif. Mais en réalité, comme c'est un terrain, le nord et le sud Kivu et l'Ituri, qui est en fait pensé comme un terrain commun, hein, et on sait que quand la guerre de 97 a commencé, ben c'est l'ensemble de ce territoire-là qui a flambé d'abord, parce que effectivement il y a toute une série d'affrontements locaux, il y a toute une série d'intérêts internationaux aussi qui sont en jeu là, et donc effectivement, est-ce que c'est une manœuvre pour détourner l'attention, ou bien est-ce que c'est un autre objectif? Et alors, qui obligerait l'armée congolaise à se disperser et à attaquer sur plusieurs fronts? Mais comme l'a bien souligné Monuf Bozo, l'armée n'a pas l'air d'être très conséquente dans sa stratégie, puisque une tactique consistant à bombarder, ça ne permet pas effectivement simplement d'occuper le terrain, il faut en plus après poursuivre. Et donc ici, si l'armée congolaise n'est pas très efficace, sauf dans ses bombardements, ben c'est fort possible effectivement qu'elle soit de nouveau détournée de son attention, parce qu'elle va devoir réintervenir ailleurs. Voilà, c'est très difficile de savoir ce que l'ennemi veut, puisque c'est un ennemi intelligent et qui s'arrange pour ne pas faire savoir ses intentions.
Oui, les combats s'intensifient après, n'est-ce pas, que les forces de la SADC ont commencé à se déployer sur les terrains, et aussi après, n'est-ce pas, la dégradation des relations entre le Rwanda et les Burundi. Et professeur, est-ce qu'on peut établir un lien entre ces combats qui s'intensifient et ces nouveaux développements dans la région des Grands Lacs?
Ben, je dirais tant qu'on n'est pas à l'intérieur des états-majors du M23 ou en tout cas ou même je pourrais dire du Rwanda, eh bien évidemment on ne connaît pas les agendas réels et les agendas cachés de chacune des forces en présence. Et donc c'est vrai que il est fort possible effectivement qu'il y ait une stratégie globale qui soit pensée et sans qu'on puisse du tout savoir nous de l'extérieur si il s'agit de vraies attaques, de fausses attaques, de semblants, etc. Parce que tout ce qu'on voit, nous, c'est les gens qui se déplacent pour essayer de fuir la guerre et la mort.
Oui, Manuel Fobosso, avec cette crise qui tend, n'est-ce pas, à se régionaliser, est-ce qu'on ne pourrait pas être amené à recourir aux solutions régionales et ce qui peut avoir, n'est-ce pas, des conséquences dans les processus de résolution de ces conflits?
Mais cher ami, les conflits sont déjà régionalisés. Il faut voir les conflits qui existent entre le même Rwanda avec son voisin du sud qui n'est autre que le Burundi. Donc vous voyez que l'élément perturbateur dans la région des Grands Lacs se trouve le Rwanda avec Paul Kagame. Donc c'est ça, le fait que ces conflits-là touchent déjà, il faut dire, 4 pays de la sous-région, notamment la RDC en première position. Il y a le Burundi, il y a le Rwanda qui est un pays provocateur, il y a aussi l'Ouganda qui est là. Donc c'est déjà la région des Grands Lacs qui est infectée par ces conflits, il faut les reconnaître. Donc en ce moment, je dois vous dire que si les militaires sont sur le théâtre des opérations, ils se battent, mais il y a des efforts diplomatiques qui se font. Rappelez-vous des accords de Nairobi, rappelez-vous également ceux de Luanda. Donc à chaque fois, on revient sur ça. Ça a été déjà conçu. Les gens étaient autour d'une table. Ils avaient négocié et ils avaient même des plans comment faire pour que, en tout cas, que la paix revienne. Mais qui respecte ça? Il n'y a personne. C'est surtout les Rwandais qui attaquent, qui envoient des troupes, qui ne respectent absolument rien. Moi, je dois dire ici que, mais malgré tout cela, il y a des efforts. J'ai vu dernièrement ici, c'est un peu l'attitude hypocrite des Occidentaux. Ils se tapent la poitrine au nom de la communauté internationale. Bon, je ne sais pas qui appelait communauté internationale. Est-ce que nous sommes communauté internationale ou pas? C'est ça la grande question. Mais néanmoins, on essaye de faire cet effort-là, notamment les États-Unis qui viennent de demander au Rwanda. Et c'est la même chanson, hein, comme on disait, la chanson des Naïsou. Donc, chaque fois, c'est la même chanson. On n'a jamais condamné formellement le Rwanda. Pourquoi? Parce que ces mêmes puissances-là qui nous font voir que ils sont là justement pour résoudre ces problèmes de conflit. Ils sont là pour dire que bon, tel doit dégager, le Rwanda doit dégager ces troupes. Ce sont ces mêmes forces-là qui financent la guerre. Parce que vous pensez que le Rwanda, qui n'a pas assez de ressources, qui n'a pas assez de richesses, peut soutenir une guerre pendant plusieurs années? Non, je ne vois pas. Et ce sont les multinationales qui sont là, et ces multinationales appartiennent à des pays occidentaux, ce sont le même pays-là. Donc c'est de l'hypocrisie vis-à-vis de nous autres. Entre-temps, moi j'ai vu l'implication de l'État d'Israël avec l'ambassadeur qui a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, pour ne pas les citer, et il a dit clairement que, écoutez, nous n'allons pas résoudre ces conflits par la guerre, c'est par la diplomatie. Donc il faut dire que ces efforts diplomatiques, c'est pour poursuivre, mais il faudrait qu'on arrive à citer les chats par son nom et puis à prendre des mesures. Celui qui ne respecte pas, on les sanctionne.
Merci, Maître Nene Bintou Iragim de Kérez, que vous êtes là. Allô, Maître Nene. Allô, Madame Nene Bintou. On prend une petite pause avec Amani de Mike El Sambo et on revient juste après.
Amani, 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 hatuwezi fika mashambani, maisha yetu yamekuwa tabani. Tunauawa, tunachinjwa, tunabakwa. Dunia nzima ya nyamaza, hawasemi kitu. Mambo haya yaishe, amani ya kudumu ikae.
C'était Amani de Mike El Sambo, ce reggae man congolais qui prône le retour de la paix dans l'est de la RDC. On revient à l'actualité de cette semaine. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi autorise ses membres élus députés à siéger à l'Assemblée nationale. Invité des Radio Capi mercredi 7 février dernier, Hervé Diakessé, le porte-parole de ces partis politiques, explique qu'à travers cette démarche, Ensemble pour la République veut mener une opposition républicaine. Il indique également qu'au niveau de la Chambre basse du Parlement, les élus d'Ensemble ont plusieurs missions, notamment celle de barrer la route à toute initiative de révision constitutionnelle. Monil Fobosso, vous êtes journaliste et correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, une radio panafricaine. Vous avez souhaité nous parler de ce sujet parce que vous posez un certain nombre de questions à propos de cette décision du parti politique Ensemble. On vous écoute.
Oui, j'ai pensé, parce que ça fait partie de l'actualité au courant de cette semaine, tous les élus, que ce soit nationaux et provinciaux, ont été, ensemble bien sûr, ont été invités à Lubumbashi et ils ont eu une rencontre pendant 2 jours. Et au cours de cette rencontre-là, donc au sorti de cette rencontre de 2 jours, donc Ensemble a levé l'option. L'option, c'est de faire participer, demander à tous les députés, à tous les élus de cette formation politique, de siéger au Parlement, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des différentes assemblées provinciales à travers le pays. Ce qui m'a un peu poussé à parler de ce sujet, c'est justement cette attitude-là. Alors que si on voit comment Ensemble a critiqué le processus jusqu'à le qualifier de chaotique, craché sur le processus, mais au finish, on accepte aujourd'hui de siéger, alors que ces députés-là sont issus de ce processus sur lequel ils ont craché du venin même, il faut le dire. Alors moi, je suis parvenu à trouver un seul mot qui peut qualifier aujourd'hui l'attitude de ce parti politique de Moïse Katumbi. C'est ce que je peux appeler aujourd'hui du réalisme politique. Réalisme politique, simplement. Parce que vous savez que les vides en politique ne payent pas. Quand bien même qu'il a craché sur le processus, mais il a demandé à ces gens, sachant qu'ils sont minoritaires, tout ce qu'ils pourront dire là-bas ne seront pas peut-être pris en considération, mais néanmoins, ils seront écoutés. Ils vont, en tout cas, dévoiler leur point de vue par rapport à une situation donnée. Mais quand on fait passer cette situation au vote, ils savent pertinemment bien que, en tout cas, la machine Union Sacrée va écraser, va anéantir tout ce qu'ils pourront faire comme proposition si cela ne rentre pas dans leur ligne de conduite ou dans leur politique. Voilà, c'est un peu ça là. Mais parce que je parle de l'attitude de Ensemble pour la République, contrairement aux autres, si je prends le cas du FCC, qui totalement s'est désengagé, qui ne considèrent même pas qu'il y a eu ce processus-là dans notre pays, qui a abouti à l'élection du chef de l'État et même à l'établissement des différentes institutions du pays. Ils se sont mis vraiment totalement en marge de cela. Il y en a d'autres. J'ai vu aussi les comeback de l'ancien Premier ministre, deux anciens Premiers ministres, notamment Matata Ponyo, qui a dit qu'il peut travailler avec le président de la République, alors qu'il faut dire, il faut reconnaître qu'au premier mandat, c'était un homme à battre. Mais malgré tout ce qui s'est passé, voilà que les gens reviennent. C'est pour dire qu'en politique, on ne peut pas rester statique. La politique reste dynamique. Et j'ai vu le dynamisme dans le chef de Moïse Katumbi. Donc c'est la réelle politique, c'est-à-dire en tout cas le réalisme politique dans son chef. Voilà pourquoi je me suis intéressé à poser, qu'on en parle un peu, que je donne mon point de vue par rapport à ce que j'ai observé.
Merci Manuel Fauborceau. Maître Néné, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Maître Néné Bintou Iragim de Kereza, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la société civile du Sud Kivu. Vous êtes chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Et vous êtes également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Vous avez suivi Monique Bonso qui a essayé de développer, n'est-ce pas, son argumentaire au sujet de la décision prise par Ensemble pour la République. La question qu'on se pose, est-ce que les expériences passées ne peuvent pas avoir été, n'est-ce pas, déterminantes dans la prise de décision d'Ensemble? Peut-être que ce parti s'est rappelé l'expérience de l'IDPS qui avait opté pour le boycott en 2006 et qui est revenu après en 2011. Et depuis lors, on est dans cette logique selon laquelle la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous avez suivi Monif Bonso. Est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte aussi des expériences passées qui peuvent avoir, n'est-ce pas, pesé dans la prise de cette décision?
Oui, certainement qu'ils ont puisé dans l'expérience du passé. Mais aussi, je me dis que Moïse Katumbi et son regroupement politique, même s'il a acerbement critiqué le processus électoral, mais il avait déposé sa candidature. Donc, déjà en déposant sa candidature, contrairement à ce que les radicaux des IFCC ont fait, et ça montrait qu'il avait quand même un peu confiance au processus, il voulait quand même aussi faire la compétition, compétir avec les autres, donc ces challengers politiques. Les résultats sont ce qu'ils ont été. Bon, il a aussi renoncé à faire le recours. Et donc, moi, je pense, comme l'a dit le prédécesseur, c'est par réalisme politique et il a été convaincu que la politique de la chaise vide ne paye pas. Même s'ils sont minoritaires par rapport au niveau de l'Assemblée nationale, je ne sais pas encore les statistiques au niveau des provinces, ils ont eu combien de candidats et combien de députés provinciaux. Sinon, en ce qui concerne les sites qui voulent l'opposition n'est pas représentée au niveau national et au niveau provincial, et je sais même que même au niveau communal, municipal, il n'y a pas eu des députés d'Ensemble qui ont été élus, contrairement aux élections de 2018 où on avait 5 qui étaient élus au niveau provincial. Donc je pense que c'est par que je réalise, comme l'a dit mon prédécesseur, et c'est les jeunes démocratiques voudraient quand même qu'il y ait une opposition. L'opposition est consacrée par nos têtes. Il faudra maintenant que l'opposition là s'organise et fasse un peu les contrepoids par rapport à cette gigantesque machine de l'Union sacrée.
Merci. Professeur Pierre Vujan, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Le porte-parole d'Ensemble pour la République a indiqué qu'au niveau de la Chambre basse du Parlement, leurs élus ont plusieurs missions, notamment celle de barrer la route à toute initiative de révision constitutionnelle. Et à votre avis, quelles pourraient être les marges de manœuvre de ces députés dans un hémicycle dominé par l'Union sacrée de la nation?
Je crois que ça a été bien résumé par mes prédécesseurs. Donc, d'une part, effectivement, le simple fait de dire qu'ils seront présents, ça fera qu'on entendra leur voix. Les médias répercuteront leur opinion, même s'ils n'ont pas le rapport de force. Et on a vu que, vu les probabilités de fraude électorale, il est probable qu'on ne les prenne pas en compte, tout simplement. Mais même si on ne les prend pas en compte, le fait d'être présent, de dire que il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des choses qu'on peut faire, c'est effectivement une manière de participer à la vie politique du pays. C'est une manière de rester présent dans la tête des gens. C'est une manière de continuer à pouvoir être en discussion avec la société civile et de pouvoir effectivement être un instrument de dialogue politique qui dit ce qui est juste à ses yeux et qui permet effectivement, enfin qui oblige le pouvoir à tenir compte de la parole d'autres, d'un autre courant que le sien. Et donc je trouve que c'est une très bonne tactique, effectivement c'est à la fois du réalisme et c'est en même temps vraiment l'effet de porte-voix du Parlement. C'est bien à ça que doit servir un Parlement, c'est à faire parler ensemble toute une série d'acteurs politiques, et ici je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver, à retrouver le sens fondamental du Parlement, c'est-à-dire le fait de d'obliger celui qui veut parler tout seul à entendre une autre voix, même si elle est tout à fait minoritaire et si elle reste minorisée, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, et même si ceux qui siègent sur les autres bancs de la majorité sont des gens d'une mauvaise foi totale, éventuellement, on n'en sait rien, on va voir comment ils fonctionnent, hein, mais bon, c'est tout à fait possible, effectivement, qu'ils soient très déçus de leur manière de travailler, mais en même temps, je trouve que c'est très intelligent, parce que c'est une manière de dire à la population congolaise, vous nous avez élus, nous avons des responsabilités, et nous tenons compte de ces responsabilités pour continuer courageusement à dire ce que nous pensons de la politique qui est mise en œuvre par le gouvernement actuel.
Merci, on écoute Fernando du groupe Siedwa Abba, et on revient juste après.
Shining there for you and me, Holy Fatih Fernando.
regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur l'intensification des combats entre les FARDC et les M23 au Nord Kivu. Nous avons également analysé la décision d'ensemble pour la République de participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Participe à cette émission, Monir Febosso, il est journaliste et il est correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, c'est une radio panafricaine. Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu et les chefs d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Les agents administratifs de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ont empêché lundi 5 février à Bukavu l'ouverture de la session extraordinaire de cet organe délibérant. Ces agents ont barré l'accès au siège de l'Assemblée législative de la province. Près de 40 députés provinciaux nouvellement élus n'ont pas pu accéder dans l'enceinte du siège situé dans les quartiers La Beauté dans la ville de Bukavu. Les personnels administratifs et de l'organe législatif du Sud Kivu manifestent depuis plus d'une semaine pour exiger le paiement des 20 mois d'arriéré de salaire. Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza, vous avez choisi ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Oui, parce que nous sommes spécialistes comme société civile à devoir notre province décoller et que nous nous rendons compte que chaque fois que nous voulons avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez encourageant, il y a toujours des défis qui se présentent. Donc l'Assemblée provinciale du Sud qui vous n'a pas ouvert sa session de mars, mois de septembre plutôt, une session essentiellement budgétaire. Et pourquoi? Parce qu'il y a le vice-premier ministre de l'Intérieur qui avait suspendu les travaux de cette Assemblée au motif qu'il fallait privilégier la stabilité au niveau des institutions provinciales. Car, comme vous le savez bien, la province du Sud Kivu est réputée par l'émotion. Le mandat du gouverneur actuel a été maillé de beaucoup d'émotions. On en est arrivé à 5 et donc on a estimé que le niveau central a estimé que c'était l'Assemblée provinciale qui ne jouait pas bien le rôle et on a privilégié le gouverneur de province de diriger seul sans contrôle de l'Assemblée provinciale et que c'est une situation qui a beaucoup handicapé la province du Sud Kivu. Cette crise institutionnelle n'a pas facilité le développement de la province. Aujourd'hui, les routes de la province pour relier la ville de Bukavu sont dans un état impraticable. Sur le plan du développement des infrastructures, on note qu'il y a beaucoup de spoliation des maisons de l'État. Il y a des citoyens qui habitent dans des sites impropres qui sont chaque fois exposés aux intempéries. La grève a commencé le 30 janvier et la session devrait avoir lieu le 5. Les agents de l'administration réclament 32 mois de salaire impayé. Donc 20 mois qui devaient être payés par le gouvernement provincial et 12 mois par le gouvernement central. Et donc du coup, ça montre quand même ce malaise là au niveau de la province parce qu'on ne sait pas comment. La province du Sud Kivu, c'est la cinquième qui contribue en termes de richesse au niveau national.
Voilà, maintenant, est-ce
la crainte que nous avons, c'est que d'ici là, donc, oui.
Oui, j'allais vous poser la question de savoir si cette grève n'est pas rapidement levée, à quoi on peut s'attendre, vous qui êtes dans la province.
Et voilà, c'est par là où j'allais en arriver. Oui, voilà. La CENI a publié depuis le 30 janvier le calendrier aménagé qui prévoit l'élection des sénateurs au 31 mars. l'élection des gouverneurs au 7 avril. Et donc, depuis le 1er février, c'était la convocation de l'électorat. Et donc, du coup, on vient de finir 6 jours sans tenir de cette assemblée, parce qu'au moins, la plénière donc, qui allait être convoquée par l'administration, le plus gradé de l'administration, devait avoir pour but de mettre en place le bureau d'âge. Et le bureau d'âge a des tâches prévues par la loi, l'article 15 de la loi portant libre administration des provinces, principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La loi date du 31 juillet 2008. Donc on devrait mettre en place le bureau d'âge. Le bureau d'âge devrait finaliser la question des règlements intérieurs, la validation des pouvoirs, mais aussi organiser l'élection du bureau définitif. Et maintenant, une fois le bureau définitif est là, le calendrier de la CENI va poursuivre son cours normal et il y aura la campagne électorale. Les sénateurs et les gouverneurs doivent battre la campagne devant les députés provinciaux. Et maintenant, si jamais la grève n'est pas levée, on risque d'avoir une perturbation au niveau du calendrier, au niveau de la province, parce qu'on n'a pas un budget, le budget 2024 n'est pas connu. Donc, c'est autant d'inquiétudes qui font reculer la province et nous, comme société civile, nous en avons appelé à un dialogue pour que la province puisse voir comment entrer en contact avec les grévistes et trouver une solution pour que la plénière, l'assemblée, les sessions puissent se dérouler au courant de la semaine prochaine.
Merci. Manuel Fobosso, le Sud Kivu n'est pas la seule province où les députés ou le personnel administratif enregistre plusieurs mois d'impayement. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette situation?
C'est la gestion de la République. La gestion au niveau national et la gestion au niveau provincial. Comment justifier que des gens qui travaillent, qui peuvent tirer toutes les substances pour nourrir les leurs, les soigner, les scolariser, les vêtir, je ne sais pas même les loger, que dans le travail qu'ils font. Mais vous prenez, vous, gouvernement provincial, 20 mois, donc pratiquement 2 ans, sans verser ne fût-ce qu'un seul rond à ses parents-là. Deuxièmement, du côté du gouvernement de la République, 12 mois, une année, sans rien verser. Et c'est comme si c'était des morts, des gens qui n'existaient pas. Franchement, moi je me dis qu'il se pose là un problème de la gestion, un problème de conscience, de comprendre que non, il y a des gens qui sont là, nous devons tout faire justement pour répondre à leurs besoins. Ils ont travaillé, ils ont droit à un salaire, on doit leur payer pour que eux, de leur côté aussi, assument leurs responsabilités. Mais vous les laissez comme ça. Voilà qu'ils ont saisi cette occasion, justement pour parler. Et moi, je me pose la question, pourquoi avoir attendu 32 mois? Et pendant ce temps-là, comment ils vivaient? Et ils continuaient toujours à venir au travail. Et là, le gouvernement de la République, insensible à leurs cris, le gouvernement provincial, n'en parlons même pas. Alors, je me dis, mais pourquoi avoir créé toutes ces institutions alors qu'on n'a pas le moyen nécessaire vraiment pour répondre à certaines obligations vis-à-vis de ceux que vous engagez au nom de la République pour produire un travail? La moindre des choses serait, vous décidez, vous dites, bon, revoyons la Constitution pour que ces assemblées n'existent plus. Comme ça, on n'aura pas les agents administratifs. Au lieu de les faire souffrir comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment de l'irresponsabilité de la part de nos autorités. Ils doivent vraiment, parce que la situation de Bukavu ou bien du Sud Kivu n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est la même situation dans toutes les assemblées. Moi, je me rappelle, je vis ici à la primature, ici à Kinshasa, devant la primature de députés provinciaux bastonnés parce qu'ils étaient venus eux aussi revendiquer ces mêmes droits. Alors, où allons-nous? Où allons-nous?
Merci.
Voilà, j'ai craint vraiment, j'ai dit, mais non, il faudrait que le gouvernement prenne conscience. Et si on ne sait pas vraiment, comme je l'ai dit tantôt, on ne sait pas répondre à certaines obligations, notamment les payer, qu'on fasse diligence pour dire qu'il faut revoir la Constitution. Comme ça, eux feront autre chose. Et là, vous aurez à apurer tout ce que vous devez apurer, vous leur donner. Comme ça, ils pourront faire autre chose. Ils ne vont pas mourir. C'est ça la vérité.
Merci, professeur Pierre Virgence. La CENI fixe l'organisation des élections des sénateurs au 31 mars 2024 et celle des gouverneurs et vice-gouverneurs au 7 mars 2024. Ce mouvement de grève ne pourrait-il pas gêner justement la tenue de ces élections?
Bien sûr, très, très concrètement, si on a besoin de la connaissance de ces fonctionnaires importants hein, pour faire qui ont réussi à faire entretenir avec un très grand sens civique d'ailleurs hein, ils ont comme le rappelait Manuel Bozo, donc ils sont allés travailler alors qu'ils n'étaient pas payés. C'est assez impressionnant quand même comme don de soi à la nation, et effectivement on a besoin sûrement de leur savoir-faire. Et c'est vrai que ça va forcément poser problème. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir que un gouvernement provincial ne prend pas en charge ses devoirs de paiement, parce que quand même, hein, ne l'oublions pas, pendant que ces gens-là attendaient leur argent, et les députés provinciaux, dans la plupart des cas, je ne connais pas l'histoire de Kinshasa, là, dans la plupart des cas, c'est quand même des gens qui sont très 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 bien payés. De façon même un peu exagérée d'ailleurs, ils sont très bien payés par le pouvoir central, et là c'est vrai que c'est vraiment tout à fait dommageable pour le fonctionnement du système politique congolais qu'on n'ait pas considéré que leur travail était important, parce que si on n'a pas des fonctionnaires de l'Assemblée pour faire travailler, pour permettre aux députés de travailler, ben, on n'a pas d'Assemblée vivante tout simplement, et donc on n'a pas de démocratie effective.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Rokia de Bella Bello et on revient juste après. C'était Rokia de Bella Bello, de son vrai nom Georgette Nafiatou Adjoavi Bello. C'est une chanteuse, compositrice et parolière togolaise. Et s'est imposée comme la plus grande star togolaise entre 1960 et 1970. Née le 1er janvier 1945 au nord de Lomé, la capitale des Togo. Et morte dans un accident de la route le 10 décembre 1973 à Lilikopé, toujours au Togo. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Monil Febosso, journaliste, il est correspondant en RDC de la radio transéquatoriale, une radio panafricaine, Maître Néné Bintou Iradi Moudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, elle est chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile, elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo, et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Le plan minimum absolu du programme alimentaire mondial PAM en sigle pour 1,5 million de personnes les plus vulnérables est confronté à un besoin de financement net de 381,2 millions de dollars américains pour les 6 prochains mois. Ces chiffres ont été dévoilés par le PAM dans un communiqué publié mardi dernier. Mais pour maintenir nos opérations plus larges, nous avons besoin de 567,8 millions de dollars américains, écrit le PAM. Les femmes vivant dans les camps des personnes déplacées ont le choix impossible de laisser leur famille avoir faim ou de faire face à la violence sexuelle alors qu'elles sont à la recherche des nourritures et du bois d'échauffe ou sont forcées de passer à des stratégies dangereuses telles que la prostitution pour survivre, regrette l'agence onusienne. Une aide alimentaire régulière et prévisible peut atténuer certaines de ces stratégies de survie, soutient les PAM. Il souligne avec force les liens entre la sécurité alimentaire et le risque élevé des protections auxquelles les femmes sont confrontées dans l'est de la RDC. Professeur Pierre Virgence, vous avez souhaité nous parler de ce sujet, on vous écoute.
Oui, je voulais parler de ce sujet parce que c'est quand même impressionnant de voir que le programme alimentaire mondial estime que s'il peut s'occuper de 1,5 million de déplacés, et encore dans des conditions très difficiles, puisqu'ils expliquent qu'ils doivent restreindre leurs possibilités d'action et se centrer sur des priorités, et que ces priorités font qu'ils ne savent nourrir des gens que pendant 6 mois, en fait, et puis après, ils considèrent que les gens sont déjà acclimatés, ce qui est assez impressionnant quand même comme drame en fait humain. Et en fait, ils estiment quand même qu'il y a 6 millions de déplacés à l'intérieur de la République démocratique du Congo, spécifiquement évidemment dans les 3 provinces de l'Est, l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et donc ce sont des provinces qui sont terriblement marquées par la guerre. On oublie souvent, on fait comme si la guerre c'était une histoire entre militaires et bandits qui essayent de s'accaparer du coltan, de l'or et du diamant. Mais en réalité c'est aussi une guerre qui a tout de suite des conséquences, avec des souffrances énormes dans la population civile, avec des millions de gens qui sont obligés de partir pour essayer de survivre, qui ont peur effectivement, et dans les camps de déplacés, ils ont besoin à la fois de nourriture, ils ont besoin d'eau, d'abri, ils ont besoin d'assainissement, de toilettes, etc. Et donc tout ça, effectivement, fait qu'il y a énormément de besoins, et le programme alimentaire mondial est en train de chercher de l'argent, et donc son communiqué consistait effectivement à mobiliser de l'argent ce que Monul Febosso il nommait de façon un peu ironique la communauté internationale pour savoir si cette communauté internationale allait se sentir concernée dans ce cas-ci. L'an dernier, en 2023, l'Union européenne, par l'intermédiaire d'ECO, a donné une somme équivalente à 15 millions de dollars. Quand on voit les besoins qui sont plus de 20 fois supérieurs, c'est impressionnant effectivement comment la communauté internationale réagit à ces drames. On sait que c'est très difficile de réagir sur le plan directement militaire. On l'évoquait dans le premier sujet avec Monul Febosso. Effectivement, on a toujours l'impression quand on est à l'extérieur qu'il vaut mieux négocier, qu'il vaut mieux essayer une solution diplomatique, mais quand on est à l'intérieur d'un conflit, c'est parfois très 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 difficile d'essayer de mettre ça en place. Et donc c'est vrai qu'ici, ça rappelle le drame du Congo des dernières années, hein, mais ça nous fait retourner aux années 97-98, au moment où on était dans la grande guerre internationale congolaise, hein, qu'on disait, c'est la première guerre mondiale africaine. Et donc, voilà, c'était... Alors, le PAM avait travaillé avec la République démocratique du Congo pour intervenir dans le plan national stratégique de développement 2020-2024. Et maintenant, effectivement, il faut renouveler, préparer le projet à venir. Mais on voit bien que déjà dans l'immédiat, il y a des besoins énormes qui ne sont pas satisfaits. Et on voit que malgré les solidarités locales qui font que beaucoup de réfugiés sont accueillis par des voisins, parfois lointains, hein, qui les accueillent avec énormément de chaleur et de générosité, malgré ça, il reste énormément de gens qui ont des besoins incommensurables pour le moment, ou plutôt justement très mesurables, puisqu'on sait qu'il faut un demi-milliard de dollars pour réussir à compenser ces dégâts. Et on se demande si un demi-milliard de dollars, ça correspond à combien de jours de rapine du coltan, de l'or et du diamant.
Merci, merci, Maître Nene Bintou Iragim de Kereza. La RDC avec 80 millions de terres arables est un potentiel agricole énorme, ça on le sait. Et en plus de cela, beaucoup de cours d'eau, aussi un climat favorable. Comment on en est arrivé jusqu'au point de manquer de quoi nourrir la population, Madame Nene Bintou Iragim de Kereza?
Oui, moi je crois que c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance parce que nous avons chaque fois, à chaque niveau, des gouvernants qui parlent à les intérêts privés, qui sacrifient les intérêts de la population. La RDC a tous les atouts pour se développer. Vous avez parlé des terres arables. Donc pour nous, c'est vraiment, chaque fois, il y a de très bons projets qui sont conçu au niveau des gouvernements. Après chaque élection, on entend souvent dire le peuple d'abord. Avant, c'était la révolution de la modernité. Bien avant, c'était les cinq chantiers. Et donc, nous avons tendance à croire que l'agriculture ne fait pas vraiment partie des priorités des gouvernants. Et voilà, on a tout, mais on importe les produits de première nécessité, parce qu'on n'a pas, on ne sait pas comment développer les potentiels que nous avons dans notre pays. Et du coup, on dépend des autres, ce qui est quand même anormal. Donc, je remercie beaucoup le professeur d'avoir choisi ce thème. Et je pense présentement aux déplacés qui sont au Nord Kivu, à Kanyaruchinya, à Sake, partout là-bas, dans les zones de conflit, et qui meurent de fond dans des camps parce qu'ils ne sont pas assistés. Et donc, le PAM fait quelque chose, mais ce n'est pas quand même de nature à combler les besoins primordiaux, parce que la priorité du PAM, c'est de sauver des vies, d'impacter des vies. Et tout comme les autres humanitaires, on sent que la province du Nord Kivu, comme celle de l'Ituri, à tous ces déplacés là sont abandonnés à leur propre sort, et on ne sent pas de l'autre côté, parce que la RDC fait partie quand même des Nations Unies et devrait quand même bénéficier de cette proximité là en cette période. Je vois comment les États-Unis, donc les Nations Unies se déploient pour la crise qui prévaut en Ukraine, la crise qui prévaut dans la bande de Gaza, mais je ne sens pas vraiment. Je ne sens pas cet engouement pour la République démocratique du Congo, où des personnes sont massacrées, les personnes meurent encore de faim. Et donc, pour moi, la solution, c'est de révolutionner l'agriculture dans notre pays. Vous savez, nous sommes un pays où les minéraux ont pris le dessus sur tout, mais ce sont des ressources épuisables. On devrait savoir qu'un jour, les minéraux vont finir, et il faudrait que, comme l'avait dit d'ailleurs le chef de l'État dans l'un de ses discours, il faudrait qu'il y ait une revanche de l'agriculture sur les mines.
Merci, Monil Fobosso. On va finir cette émission avec vous pour exécuter les plans minimum pour les prochains 6 mois. L'EPAM a besoin de 381,2 millions de dollars américains, mais pour maintenir les opérations les plus larges, il a besoin de plus de 500 millions de dollars américains. Et face à cette urgence, que devraient faire les gouvernements congolais dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces personnes, ces millions de personnes vulnérables qui sont menacées, n'est-ce pas, par la famine?
Oui. Bon, ben, ce que le gouvernement peut faire en ces temps ici, c'est de laisser des vains discours. Vous savez, quand j'essaie un peu de revoir, j'essaie un peu de consulter l'histoire, je vois que pendant les règnes de Mobutu, on nous a parlé de l'agriculture priorité des priorités. On arrive au temps de Kabila, le fils, donc Joseph Kabila, et on va nous parler de la révolution de la modernité. Je pense que notre co-débatteur ici en a parlé un peu, Madame Odekereza. On a parlé de ça. Le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, il parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Mais tout ça là, ce ne sont que des simples slogans. Regardez un peu le budget qu'on consacre, justement, qu'on réserve au secteur de l'agriculture. Mais ça ne représente absolument rien. Vous voulez en faire une revanche du sol sur le sous-sol. Mais vous donnez, je ne sais pas si c'est 1% ou 2% simplement, vous réservez ça à l'agriculture, vous voulez quoi? C'est vouloir quelque chose de son contraire. On doit cesser avec les vains discours. Moi, je pense bien que par ces temps, ce qui est plus important, qu'on donne beaucoup plus la priorité à l'agriculture. On a évoqué ici tout à l'heure que nous avons 80 millions de terres arables. Est-ce qu'on peut parler du problème de faim ici? Mais si vous voyez dans les statistiques des Nations Unies, nous sommes classés parmi le pays où, en tout cas, manger est devenu, je ne sais pas moi, un exercice. Donc on vous dit qu'un Congolais moyen vit avec moins de 2 dollars. Mais c'est une honte pour notre pays, alors que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné et nous ne savons rien. Donc les politiques doivent faire quoi? Ils doivent nécessairement abandonner tous ces discours-là, mais vraiment aller toucher le fond de l'affaire, c'est-à-dire consacrer beaucoup plus de l'argent dans ce domaine-là de l'agriculture, avec des politiques vraiment concrètes. On peut voir les effets sur terrain. Mais rester dans le bureau climatisé, on conçoit des choses, et puis après, quand on arrive sur terrain, même si les partenaires, moi j'ai vu, on a envoyé des tracteurs ici, c'était dans le régime passé, mais les tracteurs là, ça s'est volatilisé, ils se sont partagés, mais qu'est-ce qu'ils ont produit? Rien du tout. Au moins cette initiative-là des Kanyama KCC qui continue jusqu'à aujourd'hui, mais je pense bien que c'était une initiative qu'on devrait l'étendre dans toutes les provinces du pays, parce que les terres arables, là, c'est 80 millions, mais ne sont pas concentrées simplement à Kanyama KCC. On en trouve partout. Là, l'Équateur, les grands Équateurs, il y a les provinces orientales, et dans toutes les provinces du pays, si on pouvait faire des choses pareilles, je pense bien que le Congolais, en dehors du fait qu'il n'a pas un bon salaire, mais manquer de quoi manger, on n'en manquera pas. On en trouvera, on en mangera. Ce qui pousse maintenant le PAM là à demander ces montants-là, justement pour acheter des histoires à gauche, à droite, pour donner à ces gens-là. Mais ça sera pour combien de temps?
Merci.
Ça sera pour combien de temps? D'autant plus qu'on n'a pas une bonne politique en matière agricole. Voilà.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Professeur Pierre Virgence, Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza et Monulf Bosso. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Daddy, d'Hervé Vokas et de Paul Badianyama sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Mbongo de Simaro Lutumba Masia, chanson sortie en 1980 dans l'orchestre Ok Jazz, interprétée par John Poy. Et on se retrouve le samedi prochain.
Kangela nga bwato e kotiola e likoleko indayoka mokili ezali nde koningana lisolo mosusu te kaka se mbongo e odele yanganga mama e mikolo mikomi nde na suka e bolingo ozali koboya ngai o mokolo ya yambo nabosanaki kotuna yo oselija e date yo koboya ngai sengelanga na bankoko e likolo ekoinda tala nasingi maboko na moto kela nitunelanga nani asala mbongo e eloko oyo mobongisi eloko oyo mobebisi nalela ntina nini e ondako yanganga bapekisanga nde nakota o kelani noki nasuwa liboma o ambongo mama pasi eleki banganga batonda nde lokuta oo nganga nazwi malheureu lokola ngai likambo ya nsomo nganga asengi nga lisusu mbongo eloko oyo nga nazali koluka desespoir selija depisanga mbongo na dondwa nazali na mvuka ya moto te salisanga na bika o tata yo malabu balobi yo te na nzambe ebomonanaka o tunelanga na nzambe likambo oyo eloko oyo mbongo eboya ndoi na mokili e nalela ntina nini e soki olandi mbongo ekosuka se olokota e bibembe ya nsoso na fulu ya kingabwa o moto asala mbongo atika mpasi na mokili yo mbongo tokofunda yo na nzambe o solo na yo na bakulutu bakosolola e bazali kotonga yo mbongo e loboko na nkopo monoko etondi na makasu bazali kotonga yo mbongo e balobi mama na yo abotaka bino mibale yo nde mwana ya liboso leki alanda yo na nsima bapesa kombo mwasi e boningisi mokili yo mbongo
Thank you.
mananga si je ne koki bampaka bake iko sana sentinelle koluka kaka mbongo po ba mile isao odele ya mokili mikolo mikomi nde na suka e basi balemba kaka mbongo te onzambe ya mokili mbongo selija defisanga mbongo na dondwa nazali na mfuka ya moto te makambo mosusu mbongo na ye moko ya mituki botika ye asakana mosusu eritage akuta na kati ya fami olanda ye te okoyiba o mosusu eritage akuta na kati ya fami olanda ye te okoyiba o mosusu miyeke asilisa bato na fami olanda ye te okotikala yo moko mosusu esprokeri na mbongo ya leta olanda ye te nzela ya makala o kelani nakei kobina lindanda ya lwambo nazali na mfuka ya moto te